Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International en ce 14 février avec évidemment aujourd'hui le sujet le plus important de cette émission. C'est l'heure du rendez-vous qui a enfin sonné. Real Madrid, Paris Saint-Germain, ce sera dans 5 heures à peu près, le coup d'envoi. Un huitième de finale aux allures de finale entre deux clubs qui affichent leurs ambitions mais avec des parcours si différents. 12 Ligues des Champions déjà au compteur des Merengues contre 0 pour les Parisiens. La presse contribue à orchestrer cette rencontre, nous aussi d'ailleurs, qui met face à face donc de très grands joueurs européens. Quel est l'élément psychologique qui peut faire basculer le match? L'élément tactique aussi. Tout se joue-t-il dès la première confrontation? De tout cela, nous en parlerons et n'oubliez pas, ce soir, le match sera retransmis sur RFI. Et puis, les premiers matchs ont eu lieu hier de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions. La Juventus s'est mise seule en danger. Avantage à Tottenham, qui jouera le match retour à Wembley. Et puis Manchester City, sur sa lancée de championnat, une large victoire sur le FC Bâle. Et les Citizens peuvent peut-être déjà rêver d'un quart de finale. Invité dans ce studio aujourd'hui pour évoquer tout cela, Marc Libra, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Karine Galli, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Notre consoeur de l'équipe. Et puis il y a aussi Patrick Juillard de Foot Africa 365. Bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
On parlera pas beaucoup Afrique aujourd'hui. Hein.
C'est pas grave.
C'est pas vraiment le
foot est universel.
Évidemment. Alejandro Valente, notre jefe, bonjour.
Buenas tardes, on se met à l'espagnol.
Oui, évidemment, déjà. Buenas tardes, on va d'ailleurs le voir tout de suite avec aussi Eric Mamrut qui sera en ligne avec nous de Madrid puisqu'il est l'envoyé spécial de RFI. Radio Foot, c'est parti.
Miércoles, como sabéis, tenemos un partido muy, muy importante contra un gran equipo y lo que os pido, yo y nuestro equipo, es vuestro apoyo incondicional como siempre y que juntos seamos más fuertes. Así que a la Madrid, vamos, vamos, miércoles.
À la Madrid, Cristiano Ronaldo a lancé à travers les réseaux sociaux un appel aux supporters du Real, où qu'ils se trouvent d'ailleurs, mais évidemment surtout dans le stade, pour ce match très très important, hein, dit-il, Alejandro, muy muy importante.
Je crois qu'il n'a pas besoin de le dire, tout le monde
l'avait
compris.
Il insiste aussi parce qu'il dit que ce sera face à une grande équipe, hein, donc en tout cas... En apparence, il ne manque pas de respect au Paris Saint-Germain. Alors dans ce stade de Santiago Bernabéu, 80 000 places qui récemment a quand même assisté à des défaites à domicile de ses joueurs. Donc ils n'ont pas hésité à siffler les joueurs du Real et notamment Cristiano. Donc l'appel de Cristiano n'est non plus pas tout à fait anodin. 4 000 Parisiens seulement tenteront de faire entendre leur fameux cri « Ici c'est Paris » dans ses gradins pour ce match donc de gala, une finale avant l'heure, dit-on, depuis le tirage au sort. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est les unes de la presse aujourd'hui, la presse qui entre évidemment dans ce sillage. Que répondent donc les journaux madrilènes? À l'équipe, par exemple, l'équipe qui dit aujourd'hui renverser le roi. Alors, le roi, évidemment, allusion au Real, qui veut dire royal en espagnol. Et puis, le Parisien qui demande, lui, de faire tomber le mythe. Eric Mamrut, bonjour. Hola. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Alors Eric, je vous le demanderai en français, que répondent les unes des journaux madrilènes aujourd'hui?
Alors le thème principal développé par les journaux espagnols, c'est ce duel entre le champion historique, l'institution et le jeune loup aux dents longues, ce Paris Saint-Germain, et l'aspirante, celui qui rêve d'accéder à ce statut enviable de vainqueur de la Ligue des Champions. C'est le contraste que la presse développe entre l'argent du Qatar, d'une manière un petit peu caricaturale, et l'histoire de ce club comme le Real de Madrid, qui a tant gagné, qui est si fort dans cette compétition qu'est la Ligue des Champions.
C'est vrai qu'on a eu comme ça une mise en abîme, Alejandro, de cette tonalité, hein, de ce match.
Oui, disons que c'est la première impression qu'on a, c'est-à-dire cette histoire face Ah, c'est lui qui débarque, le révolutionnaire Paris Saint-Germain qui veut détrôner l'ordre établi.
Les Français
c'est,
révolutionnaires.
C'est un peu c'est une lecture, mais c'est pas la seule.
Non, parce qu'on a suivi tous le feuilleton Neymar. Neymar ira-t-il en fin de saison, ralliera-t-il le Real Madrid? En tout cas, Eric, ce match entre joueurs est aussi une lutte psychologique, hein, au-delà des unes des journaux. Qui prendra l'ascendant sur la partie, peut-être avant aussi, donc si la presse reflétait cet affrontement. Est-ce que vous qui avez entendu les deux entraîneurs hier, à savoir Zinedine Zidane et puis Unai Emery, s'expliquer face à la presse assez longuement, est-ce que vous avez senti, je sais pas, des entraîneurs extrêmement zen ou au contraire peut-être tendus qui réagissaient sur une question ou une autre ?
Zinedine Zidane, pour commencer, a voulu se montrer tranquille. C'est au moment où la Maison Blanche brûle un petit peu, en tout cas il y a des flammettes qui débordent des fenêtres, une saison difficile, on le sait, eh bien il n'a pas voulu dramatiser la situation, loin de là, et quand on lui a demandé s'il y avait la pression, si ce club qui joue sa saison lors de ce huitième de finale de Ligue des Champions joue sa saison, est-ce que il a la pression? Ben lui, pas du tout, aucune pression. Bah peut-être le jour du match, il y aura un petit peu plus, mais là on s'est préparé tranquillement et je vais bien m'amuser, je vais y aller disfrutar, je vais prendre du plaisir ce soir. Donc il veut se mettre peut-être toute la pression sur lui, sur son dos, pour en exonérer ses joueurs. Donc c'était la tonalité du côté du Real Madrid. Côté Paris Saint-Germain, Unai Emery, d'abord il est arrivé en retard hier, une demi-heure à la conférence de presse, et bon, peut-être un signe de la nervosité qui habite le clan parisien, qui apparemment était un peu palpable ces derniers jours à l'entraînement. Il y avait pas mal de questions concernant la remontada de l'an passé, car évidemment, notamment les journalistes espagnols posent la question, est-ce que vous avez digéré un petit peu? Et en même temps, c'est un motif d'espoir pour les Espagnols, les Madrilènes, de voir que face à une équipe comme le Barça, eh bien, le PSG peut craquer à ce point-là. Et bon, Unai Emery a voulu garder le self-control, évidemment, c'est de bonne guerre à la veille du match, en disant, on a appris de ce match-là, on s'est mieux préparé, on est mieux. Bon, ce sera peut-être un petit peu de façade, mais bon, on sent que ça frétille aussi un petit peu derrière, mais on veut garder le contrôle.
Karine, on imagine que ça frétille des deux côtés. Peut-être que ces gens quand même qui sont habitués à la pression, on pense à Zinedine Zidane, à tout ce qu'il a pu déjà vivre dans sa carrière, peut-être qu'il y a un moment où, de toute façon, ils l'apprécient, ils veulent le vivre aussi ce moment.
Oui, mais j'ai trouvé, moi, que dans les propos de Zidane, il y avait beaucoup de calme et de sérénité, et pourtant, l'ambiance autour du club ne l'est pas. Tu le disais tout à l'heure, il y a effectivement des joueurs qui sont sifflés après les mauvais résultats. Il y a eu des fêtes marquantes à domicile à Bernabéu, notamment face à Leganés. Et à côté de ça, il y a l'Union Sacrée. Il y a Sergio Ramos qui a appelé le public à être en nombre au moment où le bus va arriver au stade. Il y a les appels de Ronaldo, il y a les appels de Zidane. On sait qu'ils sont capables, sur cet événement-là, de
se surpasser.
Surpasser, bien sûr. Ce sont des champions, ce sont des lions. On ne peut pas les annoncer déjà battus, parce qu'ils sont capables de tout et il leur reste plus que ça pour sauver leur saison. Donc ils le savent très bien eux-mêmes, ils savent qu'ils vont jouer leur saison sur cette première étape qui est les huitièmes de finale. Et évidemment que même si le PSG a ses chances et même si le PSG va affronter une équipe qui est amoindrie, ça reste le grand Real Madrid.
Patrick, le Real peut-être et le Paris Saint-Germain, comme nous disait Eric, cet aspirante, hein, celui qui veut être un jour calife à la place
du
calife.
C'est ça, il y a cette notion-là qu'un club sort de sa zone de confort, le PSG, quand l'autre rentre dans la sienne, le Real Madrid. La saison dernière, les meilleurs matchs du Real Madrid, c'est les matchs qui ont permis au Real de gagner la Ligue des Champions pour la deuxième fois de suite. On peut pas dire que les matchs du PSG en élimination directe en Ligue des Champions soient les meilleurs matchs du PSG la saison dernière. Bon, on se rappelle notamment de la remontada. Donc, ça introduit de l'incertitude. Alors que si on comparait simplement les statistiques, les résultats et même, on peut le dire, le fond de jeu des deux équipes, Si on ne compare que ça en restant purement rationnel, le PSG est favori. Mais c'est, comme l'a dit Karine, c'est un contexte différent. Oui. Des matchs pour des fauves, pour des joueurs qui ont envie de gagner et de prouver au-delà du collectif que eux-mêmes, ce sont des grands champions qui méritent leur ballon d'or et tout ça. Et au final, ça peut vraiment rééquilibrer les enjeux sur ce match. Donc moi aussi, je vois quelque chose de très indécis sur ces deux matchs et notamment ce soir.
Sur ce côté zen ou ce côté tendu, Marc Lebras, vous qui avez été joueur, qui avait vu aussi de près les entraîneurs, qui avait disputé des matchs comme ça à très, très grand enjeu. Comment peut-on imaginer tous ces effectifs?
Non, mais là, il n'y a pas de, par rapport à Zidane, je suis pas étonné puisque depuis le tirage, la plupart des médias annoncent que Madrid va perdre. Donc Zidane peut être tranquille, quoi qu'il arrive, il y a encore quelques jours, jusqu'à ce que ce week-end Ronaldo fasse un triplé et que Madrid d'un coup ça se passe bien, tout le monde dit mais attendez, mais Paris va gagner, il y a Neymar, il y a Mbappé, il y a Cavani, c'est sûr et certain. Je pense qu'on s'est un petit peu enflammé, je pense qu'on a mis un petit peu la charrue avant les bœufs, donc Zidane il peut être très tranquille, il connaît son sort, c'est clair et net.
Non mais je pense à Zidane, Emery et tout le monde là.
Non mais bien sûr, mais Emery a pour moi beaucoup plus de pression, puisque rappelez-vous depuis le tirage, mais attendez... C'est pas possible. Le Madrid, quoi qu'il arrive, est moins bien. L'effectif, la situation en championnat. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis pas forcément... Et puis après, au niveau des joueurs, il leur reste une compétition pour essayer de briller. Ronaldo peut passer ce soir, je crois, le cap des 100 buts avec le Real Madrid en Ligue des Champions. Il est à 99 qu'avec le Real Madrid. Donc lui, ses challenges, il les aime. Et faut rappeler aussi que la saison passée, à la même période, certains médias critiquaient Ronaldo en disant « Oh, il est pas très bien, attention, il y a un coup de mou. » Il y a un coup de mou à l'arrivée. Il a mis, je crois, 10 ou 12 buts jusqu'à la finale. Donc attention, il faut pas penser que ça va être très facile pour le PSG.
Allez, rendre dans cette lutte psychologique, c'est aussi ça, c'est les fauves qui se réveillent en entendant la musique que nous on entendait tout à l'heure en entendant Cristiano Ronaldo, c'est-à-dire ça, tout d'un coup c'est comme un start.
Oui, d'un autre côté il y a peut-être des deux côtés la volonté de surprendre un petit peu. On a tellement parlé de ce match, on a tellement donné les équipes types des deux côtés qu'on a l'impression que tout est déjà établi à l'avance. Or, je pense qu'il y aura probablement des surprises au moment de l'annonce des équipes. Je verrais bien Zidane, par exemple, mettre Isco à la place de Bale et essayer de renforcer un milieu de terrain qui va être très important dans cette bataille.
On va y venir sur le plan tactique, mais restons encore sur le choc des stars, parce que c'est vrai, on parle de Cristiano Ronaldo, c'est vrai qu'en face, il y a quand même Neymar possible ballon d'or, en tout cas prétendant à un ballon d'or très prochainement. On a aussi Edinson Cavani qui se retrouve lui face à Gareth Bale. Bref, on a une BBC contre une MCN ou DCN, on va en parler tout à l'heure. En tout cas, écoutons Neymar. Neymar avait répondu il y a quelques jours, c'était à l'issue de match de Ligue 1, à Marco Martins de la rédaction portugaise ici, au sujet de cette rencontre. Vous allez l'entendre lui aussi, il est extrêmement impatient de disputer ce match.
Je respecte énormément Cristiano Ronaldo pour l'histoire qu'il a dans le football. C'est un joueur sur lequel je prends exemple et je me reconnais. Depuis 10 ans, il est au sommet avec Lionel Messi. C'est un honneur de pouvoir jouer contre lui, que ce soit pour moi ou pour mes coéquipiers. Mais nous savons tous que le Real Madrid, ce n'est pas seulement Cristiano Ronaldo. Ils ont d'autres joueurs de qualité. On doit être attentif à toute l'équipe madrilène. Ce sera un grand match. Je voulais les affronter lors de la finale. J'ai tellement envie de jouer ce match. Nous, les joueurs, nous nous préparons pour ce type de rencontre. C'est ce genre de match que nous voulons disputer. On va les respecter, mais on s'est préparé au mieux et on va tout faire pour gagner.
Alors, on l'entend effectivement. Neymar dit effectivement, j'admire Cristiano comme Léo d'ailleurs. Hein, évidemment, il n'oublie pas Messi dans l'histoire, rassurez-vous, Alejandro. est-ce que Paris peut se laisser impressionner?
Tout dépend des joueurs. Après, il y a beaucoup plus d'expérience du haut niveau côté Madrid. Certains joueurs ne vont pas forcément... Enfin oui, si on se réfère à l'équipe, il y a certains joueurs qui peuvent découvrir avec des champions. Rabiot avait été excellent la saison passée face à Barcelone ou face à Madrid quand il était très jeune à l'époque. Mais là, au niveau de l'expérience, ça penche beaucoup plus. Être impressionné, on peut l'être. Mais tout dépend du déroulé du match. C'est vrai que dans le premier quart d'heure, 20 minutes, Paris prend un but rapidement. Il faut pas revivre les mêmes choses. En sachant qu'il y a quand même toujours un match retour, parce que là on est en train de s'enflammer, ils vont gagner, il n'y a pas de souci, il y a quand même un match retour à jouer, donc attention de ne pas partir la fleur au fusil.
Exactement, et on va entendre Zinedine Zidane qui donc s'est exprimé hier et que Eric Mamrut a pu entendre face à face. Zinedine Zidane, lui, il ne s'engage pas quant au favoritisme.
On vit tous pour vivre ces moments-là. Ce sera un beau match de football avec une équipe en face qui sera certainement très forte, qui nous mettra certainement en difficulté et nous va faire essayer de faire un grand match aussi. Ce sera du 50-50 jusqu'au match retour. Comme toujours dans une élimination directe, chacun a ses chances. Nous, on va se préparer pour faire le meilleur match possible. Mais pour moi, c'est un 50-50.
Eric, du 50-50, est-ce que ça reflète ce que dit aussi la presse madrilène ce matin ?
Évidemment, la presse madrilène ne va pas dire que le Paris Saint-Germain est ultra favori, même s'il souligne bien les différentes statistiques relevées depuis le début de la saison. Le nombre de buts impressionnants marqués par le MCN, 70, le fait que Paris reste sur une série de 14 victoires sur ses 15 derniers matchs. Enfin, il y a beaucoup de statistiques qui mettent en valeur le potentiel du Paris Saint-Germain. Mais en face, eh bien, je vous le répète encore, il y a le savoir-faire madrilène qui est là, qui est présent, et la réaction d'orgueil de ces joueurs. Et d'ailleurs, les journalistes pointent que, eh bien, il s'est déjà produit plusieurs fois, je crois 5, une saison comme la vit actuellement le club madrilène, c'est-à-dire pas bonne, mais en Ligue des Champions, en Coupe d'Europe des clubs champions, ça a souvent marché. Donc, ils savent se transcender dans cette Coupe d'Europe. Donc, être mauvais dans la saison régulière ne signifie pas forcément se faire manger en Ligue des Champions.
Karine, vous êtes plutôt dans le style Zidane, 50-50 pour vous ?
Oui, je trouve que c'est très indécis parce que on connaît les forces et les faiblesses des deux équipes et elles sont très identifiées. On voit des points forts et des points faibles du côté du Real et pareil du côté du PSG. Ce qui est sûr, c'est que le Real Madrid, par exemple, il y a deux saisons, ils se font taper 2-0 en match à élimination directe au match aller contre Wolfsburg. Et bien au match retour, ils font le match qu'il faut, 3-0, triplé de Ronaldo, et la messe est dite, ils continuent leur chemin qui leur amènera leur 11e Ligue des Champions. Donc le Real peut se relever de tout, mais comme dit Marc, je suis d'accord avec lui, c'est l'entame de match. Si les madrilènes font un pressing de dingue, si on voit les Parisiens qui commencent à reculer, des hésitations au niveau du gardien, au niveau des relances, etc., ça peut mal tourner. Et inversement, si le PSG met de la folie au niveau de l'attaque aussi et marque un but très tôt, les madrilènes peuvent être aussi en grand danger. Donc c'est un match qui est très ouvert, où je pense qu'il y aura beaucoup de buts, et on ne peut pas dégager de réels favoris.
Les statistiques ne disent pas toujours tout, mais c'est vrai que le Paris Saint-Germain n'a jamais été éliminé en phase européenne par le Real Madrid.
Oui, cependant, c'est sur deux matchs qui remontent aux années 90, voilà. Ça, donc on ne peut pas vraiment comparer. Karine a raison, les faiblesses des deux équipes sont très clairement identifiées, c'est un peu les mêmes, c'est les côtés. C'est un certain manque d'impact au milieu de terrain, puisque le Real, hormis Casemiro, n'a pas de vrai défensif. Et le PSG, il y a une certaine incertitude sur le poste de sentinelle. Bon, on en parlera peut-être un peu après, ouais, entre Lassana Diarra, Lo Celso et les autres. On ne sait pas exactement comment Emery va articuler son milieu de terrain. Et ça crée des zones d'incertitude importantes, et c'est souvent dans ces cas-là qu'on a beaucoup de buts. Je pense que pour le Real Madrid, il est important de s'assurer la possession de balle, de pas laisser du tout le PSG prendre le contrôle du ballon. Et comme l'a dit le réfé, un joueur comme Isco peut être très important dans la capacité de l'équipe à mettre le pied sur le ballon et à le garder intelligemment dans les pieds sans toujours chercher le jeu rapide.
Marc, 50-50 ?
Oui, 50-50, mais pour revenir un petit peu, je suis d'accord avec autour de la table. Aujourd'hui, Paris doit se mettre en avant, c'est-à-dire que Paris doit imprégner son rythme. Si Paris est un grand d'Europe, si Paris est énormissime comme ils sont aujourd'hui, ils vont à Madrid, ils font la différence, ils se font pas...
Dès le match aller.
Mais c'est ça que j'attends, c'est pas de voir un Paris petit bras. S'ils font un Paris petit bras, c'est que forcément, depuis toutes ces années, depuis que le Qatar est là, c'est qu'ils n'ont pas évolué. Aujourd'hui, avec les joueurs qu'ils ont, ils ont le potentiel pour le faire. Les faiblesses, on le sait, des deux côtés, les latéraux, on en a parlé, même les gardiens. Mais là, si Paris aujourd'hui arrive à imprégner son rythme, ils vont marquer l'Europe. Mais si ce soir, ils jouent petit bras, on se tourne, on ne sait pas, on va pas filer des coups, on attend. Ça va être compliqué, donc j'attends de ce pari-là pour moi, parce qu'ils peuvent se faire mal. Mais si eux vont leur faire mal dès le départ, ça peut changer la donne du match.
On se retrouve juste après la pause et on vous retrouve aussi, Eric Mamrud, pour continuer à parler de ce match Real Paris Saint-Germain et notamment des compositions d'équipe, parce qu'il y a déjà, même si on n'a pas encore tout à fait ce qu'il faut, on a déjà quelques surprises. À tout de suite.
Appel sur le... Radio Foot International, Annie Gasnier.
La suite de Radio Foot International sur RFI avec Karine Galli, Marc Libra, Patrick Juillard et Alejandro Valente. Eric Mamrut qui est notre envoyé spécial à Madrid et qui est toujours en direct. Nous allons nous attacher maintenant à ce que va être quand même ce match. À quoi il peut ressembler tout à l'heure, Marc, vous avez commencé à nous...
Je suis chaud.
Voilà, nous mettre dans l'ambiance juste après le coup d'envoi. Eric Mamrut, une nouvelle est tombée tout à l'heure en début d'après-midi, hein, qui a un peu surpris tout le monde ici. Thiago Silva, le capitaine, n'est pas dans le groupe.
Il ne devrait pas être titulaire, c'est ça plutôt, hein, oui. Je crois qu'a sorti l'équipe. Et il serait remplacé par Prenel Kimpembe.
Exactement.
Voilà, le jeune. Alors, généralement, l'équipe est bien informée, mais enfin, c'est pas officiel, c'est pas une annonce faite par le Paris Saint-Germain. Alors, effectivement, hier, un indice, Thiago Silva, qui est le capitaine habituel du club parisien, n'était pas en conférence de presse. C'est Marquinhos qui est venu. Peut-être qu'effectivement cela laissait présager de cette décision d'Unai Emery qui serait effectivement très très forte hein, si il décidait de lancer Prenel Kimpembe, ça serait un coup de tonnerre presque effectivement de désavouer son capitaine et d'aller dans le sens que c'est un joueur qui lors des grandes occasions tremble quelque peu, n'a pas la force mentale et c'est peut-être un petit peu pour le punir. À propos de la remontada, c'est Thiago Silva qui avait dit à ses joueurs reculez, alors que la démarche d'Emery, c'était justement de pas reculer face aux Catalans, et on sait ce qui s'est passé, ils ont pris l'eau totalement les Parisiens.
Et Kimpembe, il y a un an, contre Barcelone au match aller, il avait joué, il avait été très bon.
Et Kimpembe a joué contre Toulouse ce week-end, donc c'était déjà peut-être aussi un
bon. En tout cas, ça sera pas Kimpembe le capitaine ce soir.
Non, c'est Marquinhos qui devrait prendre le brassard.
Vraisemblablement, hein, oui. Karine, on peut être surpris, non, de cette... Thiago Silva, Eric souligne bien sa fragilité dans certains matchs très délicats. On se souvient tous de 2014, ça fait donc 3 ans et demi.
Mais il n'y a pas que 2014.
Non, parce qu'en fait, je sais bien, voilà. Mais comment Unai Emery attend ce matin pour lui dire qu'il n'est pas titulaire?
Alors, et évidemment que le timing semble surprenant.
C'est pour surprendre l'adversaire.
Il y a de ça, mais j'en discutais tout à l'heure avec Damien Degor, parce que c'est une information d'Arnaud Herman, confirmé par Damien Degor. Il me dit qu'il y a aussi l'idée de surprendre l'adversaire, mais les doutes que Unai Emery a sur Thiago Silva ne sont pas nouveaux. L'été dernier, Unai Emery et le PSG ont voulu enrôler Pepe, le défenseur central du Real Madrid à l'époque. Portugais. Ce n'était pas pour rien. Emery, il voulait avoir des assurances au niveau de la défense centrale. Il voulait un taulier et il pensait qu'il ne l'avait pas. Donc il y avait déjà des doutes auprès de Thiago Silva. Et Thiago Silva, les doutes, il y en a plusieurs. Il y a évidemment la Coupe du Monde. Il y a aussi en Copa América avec le Brésil, toujours quand il pleure. Il y a le match retour de l'an passé au Camp Nou. Donc il y a plusieurs indices qui laisse toujours le doute par rapport à Thiago Silva, alors que Kimpembe, c'est la jeunesse et c'est surtout un joueur qui a été totalement au rendez-vous, qu'on lui a donné sa chance. Alors je trouve que le timing, effectivement, est très surprenant. Là, t'es sûr que t'as perdu Thiago Silva jusqu'à la fin de la saison et tu peux imaginer même un départ ou sinon un changement d'entraîneur. Mais je trouve que l'idée, en tout cas, de mettre Kimpembe est bonne. Le timing est pas bon, mais l'idée, je trouve qu'elle est bonne.
C'est pas vraiment surprenant, Patrick, parce qu'on se rappelle
au monstre,
que...
Pleurer, comment on le surnomme.
À la fin de l'été, après que le mercato était clôturé, donc le PSG n'avait pas pu recruter de défenseur central supplémentaire et Unai Emery avait déclaré je ne sais plus à quel journal, j'ai 3 titulaires pour 2 postes. Donc il considérait déjà Prenel Kimpembe comme l'égal de Marquinhos et Thiago Silva. Et là, c'est aussi une manière de le récupérer parce que Kimpembe, son entourage restait un peu sur sa fin, trouvait qu'il n'était quand même pas assez régulièrement titularisé dans des matchs importants. Et là, c'est peut-être une manière de dire « Ok, je te fais confiance, à toi de jouer maintenant ».
Marc Libra, la tactique ce soir, vous êtes l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Vous disiez tout à l'heure, il faut prendre les devants, il faut...
Je pense qu'aujourd'hui... Paris est capable doit imprégner son rythme. Paris ne doit pas les petits bras. Moi, je suis ravi que Kimpembe démarre, puisque moi, il va y avoir du sang dans cette équipe. Quand j'ai du sang, c'est qu'il y a de la vie, il y a du jus. Thiago Silva, c'est vrai que la plupart du temps, il finit le match, il est tout propre, il est nickel, pas besoin de lessive, il y a rien, quoi, tout se passe bien. Après, le problème de Kimpembe, c'est que il y a tellement d'envie, tellement de plaisir, de plein de choses, peut-être qu'il peut péter un plomb, peut-être qu'il peut rapidement dégoupiller, ça peut arriver parce que c'est un jeune joueur. Dans l'envie, en tout cas, lui, il sera présent. Maintenant, le timing aujourd'hui, je ne sais pas quel est le message qu'on fait passer à Thiago Silva et aux joueurs qui sont là autour, parce qu'il a quand même des, enfin, il est important dans le vestiaire. Je ne comprends plus rien. Et j'ai l'impression qu'avant chaque match très important du PSG, il y a toujours ce, je sais pas, il y a toujours un petit truc. Là, c'est incompréhensible. Et en plus, si Kimpembe démarre, on va dire, ah, mais c'est un jeune joueur, c'est bizarre. Pourquoi? Je sais pas.
Alejandro, la tactique à choisir ce soir contre le Real qui joue chez lui, hein, rappelons-le, à domicile.
Je pense que le PSG devrait s'inspirer un peu de ce qu'a fait Barcelone à Bernabéu. C'est quand même une référence qui montre, mais qui a révélé ou qui a mis en lumière certains aspects qui sont récurrents dans ce Real Madrid, et notamment le fait qu'il veut démarrer toujours très fort le match. Donc il faut être patient en première mi-temps. Il faut essayer d'empêcher le Real de trouver les lignes, les connexions, de bloquer Modric, si tant est qu'on puisse le faire, etc. Et puis accélérer fortement en deuxième mi-temps, car ce Real Madrid, s'il y a quelque chose qui le caractérise depuis le début de saison, c'est qu'il a une baisse de régime très, très conséquente en deuxième mi-temps.
On l'a encore vu contre la Real Sociedad, où pourtant l'équipe maîtrisait totalement son sujet, à qu'un prix, deux buts.
Voilà, finalement ils ont gagné 4-0 la première mi-temps, mais ils ont perdu 2-1 la deuxième.
Alors Patrick, vous pensez peut-être à quelque chose, c'est d'eau différent de la part du Real Madrid.
Alors, oui, c'est ce que suggérait dans la première partie Alejandro et qui était, je pense, assez astucieux. C'est-à-dire que on annonce forcément la BBC titulaire et partante d'entrée sur ce match, mais Zinedine Zidane pourrait aussi bien enlever Gareth Bale et titulariser Isco pour densifier un peu l'axe du milieu, gêner la tentative qu'aurait le PSG de prendre la possession via Verratti, via Rabiot, en coupant un peu les transmissions. Et aussi, Isco est un joueur qui peut garder le ballon intelligemment et, je pense, donner une sorte d'assise sur le jeu offensif du Real. Alors que sans lui, il y a un peu une équipe coupée en, qui pourrait être coupée en deux s'il n'y a pas Isco, s'il y a juste la BBC et les autres joueurs.
En plus, il aurait un joueur hyper motivé, car on sait qu'Isco a un peu broyé du noir ces dernières semaines parce qu'il estimait qu'on ne lui faisait pas confiance. Il sait qu'il joue en grande partie sa place à la Coupe du Monde sur des tels matchs. Et donc, je pense qu'effectivement, un Isco inspiré aujourd'hui peut faire beaucoup de mal.
Marc, on parle de BBC. En face, on aurait une MCN. Ça veut dire qu'on aurait Kylian Mbappé et on n'aurait pas Angel Di Maria qui semblait être peut-être l'homme en forme, mais surtout quelqu'un qui connaît Santiago Bernabéu. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je suis plus Di Maria, même si la plupart du temps, on parle de Mbappé. On parle, oui, Mbappé l'année dernière, mais c'est vrai que depuis le début de saison, il oscille entre le bon et le moins bon. Et il a le droit, c'est un jeune joueur. Je pense que Di Maria... Alors, mais oui, mais Di Maria fait ça chaque saison. C'est-à-dire que pendant 3-4 mois, ça ne l'intéresse pas. Septembre, décembre, non, il se repose, ça ne l'intéresse pas. Par contre, en janvier, il met Blutchoff et il fait encore la différence. Et c'est vrai que depuis janvier, alors certes, il a bénéficié que Cavani était en retard, que Neymar suspendu, mais en tout cas, il a été très bon et lui a beaucoup plus d'expérience, je pense, qu'Mbappé. Mbappé, je pense qu'on peut se le garder sous le coude si ça va de le faire entrer, et surtout au match retour. Mais aujourd'hui, de se passer de Di Maria, qui a toute l'expérience, qui a été capable, lui, à une époque, de jouer, parce qu'il va falloir peut-être subir. Je pense que quand on va prendre frontal, on prend Ronaldo. Mbappé, il va jouer où? Il va jouer collé à Daniel Alves? Comment ça va se passer? Ça va être très, très dur, tout ça.
Il serait juste sur Di Maria, il est possible aussi d'intégrer à la fois Di Maria et la MCN en mettant Di Maria en relayeur au milieu, comme
tu sors défensif au Real Madrid.
Ouais. Et en enlevant un joueur plus défensif. Mais c'est dans l'optique où le PSG se vraiment met le pied sur le ballon et veut dominer à tout prix le match.
Mais c'est un gros risque. Tu ne dois pas tout changer parce que tu vas à Madrid non plus.
Je ne dis pas ça, mais après, c'est aussi une manière de mettre tous tes joueurs en forme sur le terrain.
Oui, mais Di Maria au milieu de terrain avec le PSG, on ne l'a jamais vu sous l'ère Unai Emery. Oui. Donc faire ça ce soir parce que tu te déplaces au Bernabéu, je trouve que ce n'est pas une bonne idée. Moi, j'ai trouvé quand même que depuis le début de la saison, il y avait des automatismes, il y avait des évidences entre les trois de devant, entre Cavani, entre Mbappé et Neymar, qui se trouvaient très facilement, que lorsqu'ils jouaient ensemble, ils combinaient merveilleusement bien. Donc j'ai envie de revoir ça ce soir. Évidemment, à un moment, le problème, c'est que Di Maria, c'est l'éternel regret. Mais s'il est dans cette situation-là, s'il est plus titulaire, s'il est numéro 4, mais évidemment, il ne doit s'en vouloir qu'à lui-même. Donc Di Maria, qui effectivement décide d'être bon de janvier à février pour jouer les gros matchs, ça me convient pas. Mbappé, là, il revient parce qu'il y a eu ses petits pépins, etc. Mais je pense que les trois peuvent faire mal. Et puis la vitesse d'Mbappé par rapport au souci défensif du Real.
On se souvient d'Mbappé notamment contre Manchester City, ce fameux match de Monaco.
Je pense que ça peut faire très 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 mal, parce que la défense du Real, elle est quand même
elle est souvent prise dans son dos cette saison.
Et elle concède beaucoup d'occasions.
Ouais. Non, moi je suis pas d'accord. Je suis comme Marc, je pense que Di Maria ferait beaucoup de bien s'il y a un match.
C'est le côté argentin.
Non, c'est pas ça, mais s'il y a un match où il devrait jouer, c'est bien celui-là à Bernabéu qu'il connaît bien, où on le craint un peu, il a très envie de jouer ces matchs. Mbappé peut très bien être une solution pour la deuxième mi-temps et je pense que ce serait
je suis pas d'accord avec Karine sur ce point-là, c'est que malheureusement Mbappé a été happé par Neymar. C'est-à-dire que certes, Karine, tu as raison sur certaines relations, mais on a vu souvent un Cavani un petit peu esselé et Mbappé qui joue tout pour Neymar. Et ce que je lui reproche, c'est que la saison passée avec Monaco, il jouait très bien, tout ce qu'il faisait était bien, c'était senti. Là, souvent, il déjoue. C'est-à-dire qu'il doit donner à droite sur un joueur, il va se tourner, il va chercher Neymar. Et c'est peut-être aujourd'hui ce problème-là qui le met dans cette situation-là pour moi. Et c'est un petit peu dommage. Ce relationnel que je pensais vraiment énormissime, eh ben Neymar a tout phagocyté autour de lui et il a embarqué le petit Mbappé avec lui. Je pense que Di Maria lui peut faire aujourd'hui la différence. Voilà.
Autre poste qui pose pas mal de questions, c'est le fameux poste de sentinelle.
Je croyais être gardien.
Numéro 6. Il y a le gardien, il y a les latéraux, il y a le 6. En fait, il y en a beaucoup. Hein. Non, mais là, en tout cas, il y avait une inconnue.
On reste jusqu'à 19h pour en parler. D'ailleurs.
Non, mais c'est jusqu'à 19h40. TU marque le moment où Eric prendra le relais. Eric, sur ce poste de sentinelle, on était un peu dans le brouillard puisque Thiago Motta, c'est clair, n'est pas du voyage. C'est même pas dans le groupe titulaire, il n'est pas du voyage. C'est Lassana Diarra qui prendra son rôle. Aujourd'hui, Lassana Diarra qui a passé 3 saisons avec le Real, qui a disputé 117 matchs dans l'équipe du Real Madrid.
Oui, il connaît la boutique, c'est sûr. Lassana Diarra, il a joué ici dans ce stade de Santiago Bernabéu entre 2009 et 2012. Bon, après, le problème, c'est qu'il a peu joué en 2017. Il a quitté l'Olympique de Marseille au mois de février pour s'envoler aux Émirats Arabes Unis pour jouer avec Al Jazeera. Et là-bas, il a joué que très, très peu de matchs. Donc, il est arrivé là cet hiver. À Paris, Emery a essayé de le lancer très très rapidement. Il a été titulaire lors des deux derniers matchs à Sochaux et à Toulouse, mais Emery a reconnu que il ne pouvait pas tenir plus d'une heure généralement dans ces parties-là. Mais apparemment, il semble effectivement penché sur cette solution, même s'il n'a pas cessé ces derniers jours d'encenser Giovanni Lo Celso, l'Argentin, qui en balance avec la Lassana Diarra pour ce poste. Alors après, l'avantage de Giovanni Lo Celso, c'est que il est plein d'envie, il est très volontaire, il s'intègre parfaitement au collectif, mais il est tout jeune, il manque un petit peu d'expérience et peut-être c'est ça que veut privilégier Emery, c'est un petit peu plus le savoir-faire de la Lassana Diarra, l'expérience.
Et oui, les aspirantes et l'expérience. On devait quand même, alors vous aimez bien les automatismes, Karine, vous parliez tout à l'heure des automatismes des trois devant, mais alors là, on s'attendait à voir Thiago Motta et Thiago Silva. Finalement, on a la Lassana Diarra et Kimpembe.
Voilà, pour la défense centrale, ça va, parce que Marquis et Kimpembe jouent quand même beaucoup ensemble, parce que depuis le début de la saison, il y a une vraie rotation au niveau des défenseurs centraux. Au niveau de la sentinelle, il n'y a pas de solution parfaite. Dans tous les cas, Lo Celso, c'est très plaisant lorsque le PSG a le ballon, mais lorsque le PSG est sous pression et ça risque d'être le cas ce soir, c'est un petit peu léger, donc c'est pas la solution parfaite. Et Lassana Diarra, ça serait la solution parfaite s'il était à 100%. Il ne l'est pas. Il est court, on le voit, on l'a vu face à Rennes et face à Toulouse. Donc,
quand il est très bon, effectivement, on s'en souvient du côté de Marseille, n'est-ce pas, Marc?
Le choix qui sera fait par Unai Emery ne sera pas le meilleur des choix, parce qu'il n'y en a pas.
Voilà, il y a pas le meilleur des choix, c'est Thiago Motta en forme.
Ah bah oui, non,
ça c'est pas possible.
Mais là, il est à Paris.
Voilà.
Donc même s'il est en forme, Marc.
Oui, non, mais ce qui est surprenant, c'est que depuis le mois de juillet, on sait que Thiago Motta n'est pas forcément bien en jambes, que ça va être compliqué pour lui. On n'a rien prévu. Finalement, en janvier, Thiago Motta, il est encore court, il est blessé, on n'y arrive pas. Il faut vite prendre un joueur. Moi, j'adore Lassana Diarra et je trouve qu'il avait été très bon et il est capable de faire la différence. Maintenant, c'est juste le physique. S'il a une heure où il a 70 minutes dans les jambes, en tout cas, il est capable.
L'habitude aussi.
Mais lui, voilà, ça fait partie des joueurs qui ne seront pas impressionnés. Lo Celso, peut-être, vu l'ambiance, il peut être entendu. Lassana Diarra, ce que j'aime bien, c'est qu'il est capable de faire ses petites fautes au bon moment. Il va vous bousculer. Un joueur qui va vous faire mal quand.
Enfin, c'est tout ce qu'il sait aussi ralentir le jeu.
Il ralentit, il casse le jeu. Voilà. Il est capable de le faire. Maintenant, si sur un plan physique, on le sait que le PSG, dès qu'ils sont un petit peu bousculés, quand on rentre dedans, c'est compliqué pour eux. Ça va être dur parce que ça va lui venir dessus directement.
Alors, messieurs, une dernière question à ce sujet. Est-ce qu'on se jette dans la bataille tête baissée pour les 90 minutes ou est-ce qu'on pense aux 180 minutes et qu'on pense déjà en jouant un match aller à un match retour?
Forcément qu'on y pense maintenant. il vaut mieux ne pas y penser tout
on
le temps.
On gère déjà le retour dès l'aller.
Ça dépend de la physionomie du match. Admettons que le PSG fasse le break rapidement, mette deux buts dans la première demi-heure. Il est évident qu'on va penser au deuxième match. On va commencer à un petit peu calculer, entre guillemets, dans le bon sens du terme. Maintenant, si on y pense dès le début, il faut qu'on soit très fort et très sûr de soi pour le faire. Mais non, je pense qu'il vaut mieux. Alors, les footballeurs disent toujours, on prend les matchs les uns après les autres. Ouais. Là, pour le
les
coup, vaut mieux le faire pour ce match-là.
Non, mais surtout que le PSG, je trouve, ne sait pas calculer. Par exemple, quand on parle de la Juve, on dit oui, c'est une équipe qui calcule. Ben, on l'a vu hier, pour le coup. Et ben, ils avaient
on
calculé,
va y venir, d'ailleurs.
Ils menaient
11
2-0.
Minutes. Ils ont calculé
après,
11 minutes.
Voilà, 11 minutes, et finalement, ils s'en sortent avec un match nul. Et le PSG, c'est pas dans son ADN de savoir calculer, de savoir subir, de savoir supporter une avalanche d'occasions adverses. Ils savent pas faire ça. Donc, il faut pas qu'ils déjouent. Et puis bon, après, on n'en est pas non plus à ce scénario-là. Je suis pas prête, moi,
c'était
à parier.
C'était juste une hypothèse.
Voilà. Mais en tout cas, le PSG n'a pas ça en lui, cette capacité à voilà ouvrir très vite la marque et après à subir pendant longtemps sans prendre.
Ils savent pas faire.
Alejandro.
Ben déjà, le PSG n'a pas trop l'habitude de jouer les matchs au retour à domicile. Donc, pour une fois qu'il aura cette chance, qu'il en profite. Mais il faut d'abord penser qu'un match à 90 minutes et donc qu'il y aura peut-être deux mi-temps qui pourraient être très différentes. Donc, n'est pas vouloir tout plier en première mi-temps, être patient et essayer d'amener un bon résultat pour que le match retour soit vraiment ouvert.
Disputé. Alors, Marc, patience.
C'est vrai que j'écoute tout le monde autour de la table et malheureusement, tout le monde a raison. Paris n'est pas un grand d'Europe pour l'instant. Parce que le grand d'Europe, c'est encore City hier soir qui fait la différence, que ce soit n'importe quel adversaire. C'est le grand Bayern, c'est ces équipes-là qui sont capables de faire la différence. Et malheureusement, aujourd'hui, depuis 4-5 ans, on est en train de dire, non, mais on va réfléchir, on n'est pas serein. Mais c'est
le
la vérité.
Piège, c'est
en
le
plus.
Match retour, alors.
Ben, le match retour, non, mais là, il faut pas qu'il calcule. Si aujourd'hui Paris veut grandir, il faut imprégner son rythme et aller les chercher. Il faut être capable de jouer 95-96 minutes.
Quel pronostic vous faites pour ce match, Marc? Je le regarde parce que...
Moi, je vois des buts, donc je vois bien...
Entre rêve et réalité.
3 ou 4-1 pour Madrid.
3 ou 4-1 pour Madrid.
Je vois vraiment des buts, moi.
3-2 Real.
Et vous,
Karine? Moi aussi, je voyais beaucoup de buts. J'hésitais entre le 2-2 et le 3-2. 3-2 Real aussi. Oui, en tout cas, je vois un match avec beaucoup de buts. On l'a dit, hein, de toute façon, on connaît les forces et les faiblesses des deux équipes.
Et vous?
Moi, j'ai misé pour une victoire du PSG, quand même. Dès les matchs allés.
On se demande bien pourquoi.
C'est le Barcelonais qui parle ou pas?
C'est le Barcelonais
qui
parle.
Non, pas du tout, pas du tout.
Alors, dans l'ensemble, nos auditeurs sur la page Facebook, Alejandro, ça vous surprendra pas, eux, ils pensent que c'est le Real Madrid qui va réussir à se qualifier.
C'est logique.
Eric, je vous demanderai pas votre pronostic, mais j'espère que vous allez passer une bonne soirée pleine de buts, alors qu'on vous promet.
Oui, on espère qu'il y aura des buts, mais ce qui donne le sel à cette partie, c'est, je crois, que tout peut se passer. Tous les scénarios sont possibles et le Real Madrid peut devenir complètement fou, marquer une ribambelle de buts dans la première demi-heure et totalement étouffer un Paris Saint-Germain qui va repenser à la remontada et qui va peut-être totalement craquer. Qui sait, c'est pas si loin. Et de l'autre côté, on peut avoir un but rapide de Mbappé et après Paris qui procède tout le temps en compte et qui n'arrête pas d'en mettre face à une défense madrilène complètement désœuvrée. Donc tout peut arriver, je pense. C'est bon, il faut écouter la radio.
Beaucoup d'imagination, Eric Mabrut. Eh bien, on vous suivra à partir de 19h40, temps universel.
Chanceux. Il est chanceux.
Ouais, il a beaucoup de chance. Avec Pierre Chaperon, notre correspondant à Madrid. Ouais. Bonne soirée, bon match, Eric.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Ciao.
Je ne sais pas si Gianluigi Buffon avait fait passer un message sur les réseaux sociaux pour demander au public de venir les soutenir, mais ils étaient là, les supporters de la vieille dame. Et voilà que la Juventus a loupé la marche. Même Gigi Buffon, hein, je sais que vous avez un regard attendri pour lui, Karine. Alors, tout n'est pas perdu, puisque quand même, il y a un match retour, mais c'est vrai qu'hier, on a eu droit à un match fou. La Juventus a réussi à mener 2-0 à un moment avec un but absolument d'entrée incroyable de Gonzalo Higuaín qui avait ouvert le score. Mais résultat final 2-2, les joueurs de Tottenham sont revenus. Alors un résultat décevant certes, mais sans doute l'entraîneur Massimiliano Allegri n'a pas voulu casser ses joueurs et voilà ce qu'il a dit.
La Juventus gioca per vincere la Champions. La Juventus joue pour gagner la Ligue des Champions, mais nous ne sommes pas favoris pour la remporter. Et c'est impossible d'aller en finale chaque année. Nous donnons le meilleur et mes joueurs ont de quoi être heureux car ils ont fait une saison incroyable. Et puis je suis très content de ce qu'ils font. Nous savons que nous devons toujours progresser. Nous avons encore de bonnes chances de nous qualifier lors du match retour à Londres. Mais c'est totalement fou de croire que la Juve va remporter 3-0 un huitième de finale de la Ligue des Champions. Ça m'énerve parce que vous ne vous rendez pas compte à quel point les équipes qui sont à ce stade de la compétition ont un niveau de jeu élevé. Je ne peux pas comprendre que des gens pensent qu'un match nul contre Tottenham nous rend furieux.
Alors Tottenham, c'est un peu l'équipe en plus outsider. Il n'y avait jamais eu cette rencontre entre la Juve et Tottenham. Ils ont quand même. On n'imaginait pas ce score final après le début du match de la Juve.
Il est d'une mauvaise foi terrible. Allegri, évidemment qu'il peut être que furieux quand tu vois le scénario du match. La Juve fait une entame de match parfaite, mène 2-0. On sait que la Juve sait parfaitement subir normalement. Et là, c'était tout le contraire. Les Spurs n'ont pas d'expérience européenne. Ils sont les petits nouveaux par rapport aux grands de la Juve et finalement c'est eux qui ont fait beaucoup de belles choses sur le terrain.
La surprise.
C'est eux qui se sont créés de très belles occasions. La Juve, c'est une déception. Alors 2-2, c'est pas un mauvais résultat, mais par rapport au scénario du match, c'est une déception. Après, il y a quand même des absences qui sont importantes. Je pense que Matuidi au milieu de terrain et l'option Dybala aussi qui manquait à la Juve a pesé, mais la Juve a été très décevante, bouffonne notamment, mais c'est pas le seul.
Mmh. Alejandro.
Bah, la chance pour la Juventus, c'est que Wembley n'est pas le Juventus Stadium. Il n'y aura pas la même pression ni la même ambiance. Et je pense que ce sera un match ouvert, relativement ouvert au retour, à mon avis. Hein.
Tout à l'heure, on se posait des questions sur faut-il jouer sa classification 90 ou 180 minutes. On a vu la réponse là,
oui,
Marc.
Oui. Non, mais après, il y a quand même le fait de match. C'est Higuain qui a l'occasion pour le 3-0. Il y a le penalty.
On peut pas l'accuser non plus vu tout ce qu'il a fait.
Absolument pas, mais ça peut quand même changer. Puis quand il part au but, il y a son duel à 3-0. Peut-être qu'on parle différemment. Si on découvre aujourd'hui que la plupart des équipes anglaises ne lâchent pas, et elles ne vous lâchent pas même si elles prennent 2-3-0, on le voit tous les week-ends en première ligue. Ils prennent 3-0, ils continuent d'attaquer. Donc là, 2-0, là, je dis, oh mais c'est super. Ouais, mais là, Ligue des Champions, Tottenham va continuer. Et on a peut-être oublié un paramètre, c'est que le milieu de terrain, on l'a vu hier soir, le milieu de terrain a été extraordinaire de Tottenham. Ils n'ont rien lâché, que ce soit d'ailleurs, que ce soit Dembélé, que ce soit Eriksen. Ils ont été très très bons, ils ont su faire la différence. Bon, il faut oublier Aurier, il n'est pas très bien. C'était pas un bon soir pour Aurier.
Il y a quelques erreurs.
Voilà.
Mais même avec ça, Tottenham.
À l'arrivée, Tottenham a su faire la différence et il faut penser à eux. Et encore une fois, j'en dis souvent, Pochettino ne le prend pas au sérieux et son équipe non plus.
Ouais, mais enfin,
nous, ici à Radio Foot, on le prend.
Oui, non,
hein, n'est-ce pas, Alejandro? Grâce à Alejandro Valente,
je trouve quand même, alors le résultat.
Mais est-ce que c'est la fin du mythe des défenses italiennes avec ce résultat?
Je pense pas. Je pense que l'ADN des équipes italiennes, c'est toujours de bien défendre et de savoir subir. Là, simplement, il y a eu pas mal d'absents et ceux qui les ont remplacés n'ont pas vraiment été à la hauteur. Je pense notamment à Khedira au milieu qui a été en dessous de tout. C'est pas le seul, mais lui a été particulièrement mauvais.
Buffon, il faut le dire aussi. Ça peut changer un match retour.
Ça va changer forcément. Et bon, Buffon pour moi, malheureusement, j'adore Buffon, je respecte énormément Buffon, mais sur le match d'hier soir, il est quand même un peu sur la jante, quoi. Sa responsabilité est engagée sur les buts. Il n'est pas le seul, mais elle est engagée. Il faut pas l'oublier. Après, la lecture globale du match, faut pas oublier quand même les erreurs défensives, la naïveté défensive de Tottenham. Donc ça,
il y a
pour
eu
moi,
des occasions quand même.
Ça les... aussi,
hein.
Oui, mais ça les met pas à l'abri du tout d'un
la Juve reste favori,
d'une vengeance de la Juve au match retour. C'est pas clair encore.
Puis c'est pareil, l'expérience elle est du côté de la Juve. On parlait du Real et du PSG. La Juve c'est un monstre et Tottenham c'est les petits.
Avantage donc à la Juventus. Et puis en Suisse il y avait un autre match puisqu'il y en avait deux hier soir et Manchester City, on va dire, s'est promené. Une horloge suisse et Citizen qui n'ont pas failli. Ils ont bien remporté leur match contre le FC Bâle 4-0. Pep Guardiola heureux.
0-4 away, so it's an amazing result.
4-0 à l'extérieur, c'est un résultat incroyable. Évidemment, la confrontation dure 180 minutes. Mais nous sommes presque en quart de finale. Je ne dis pas que c'est déjà fait. Car en football, tout peut arriver. Et il faut avoir du respect pour Bâle. Nous avons obtenu un résultat incroyable. Après 10 minutes, nous aurions pu être menés 2-0. Mais après 15-20 minutes, nous menions 3-0. Nous n'avons pas bien défendu sur les longs ballons, mais nous avons été efficaces devant. Nous nous sommes approchés 4 fois des cages et nous avons marqué 3 buts dans ce début de match. En seconde mi-temps, ce n'était pas facile de garder le même niveau, mais nous l'avons fait.
Citizen, efficacité maximum, Karine.
Oui, c'était quand même le huitième de finale le plus déséquilibré sur le papier.
Totalement.
Ça c'est.
Il est gentil
également,
quoi,
voilà, sur le terrain, parce qu'effectivement, les joueurs de Pep auraient pu en mettre beaucoup plus, mais c'était un match plaisant. Par contre, oui, Bâle n'était pas à la hauteur de l'ogre mancunien.
Alejandro.
Bah, on dit souvent que City et le PSG incarnent un peu cette nouvelle vague dans le football européen, mais la différence c'est que City a Guardiola sur le banc et le PSG a Unai Emery. C'est pas encore tout à fait ça.
Hein. Non, mais juste une petite remarque. Les recrutements défensifs des deux équipes cet hiver. D'un côté, il y a Aymeric Laporte, qui est un des défenseurs les plus chers de l'histoire, et de l'autre, il y a Léo Lacroix, qui est un joueur qui était même pas titulaire à la AS Saint-Etienne, qui a joué hier soir, donc, avec le FC Bâle. Donc, ça dit tout sur ce match.
Alors que Laporte, il a commencé sur le banc. Il pouvait s'en passer face à Bâle.
Absurde.
Marc, en tout cas, on les sent sur leur lancée de première ligue, ces citizens.
Non, mais voilà, c'est ce que j'attends de Paris. Ils sont capables de faire la différence en Ligue 1. Il faut pouvoir le faire à haut niveau. Et là, ben, on a vu que hier soir, City, un petit peu en danger, avec Otamendi ou compagnie, puis après ça déroule et puis ça met 4, 5, 6, ça s'arrête pas, quoi. C'est une machine et je veux voir ce pari-là aussi parce qu'ils sont capables de le faire.
Merci beaucoup Marc, merci à vous d'avoir participé aujourd'hui à Radio Foot International. Merci aussi à David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission. Guillaume Ploquin était à la réalisation et évidemment on vous dit à demain, mais ne manquez pas le rendez-vous tout à l'heure avec le match retransmis par RFI. Merci. Oh.